Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Restaurer le lit naturel d'un cours d'eau. En Bretagne, de plus en plus de projets sont menés dans ce sens. Mais pourquoi faire? Quels sont les bénéfices de tels travaux pour la biodiversité, mais aussi leurs contraintes? Avant d'en parler dans quelques minutes avec Mickaël Le Bihan, à la direction Bretagne de l'Office français de la biodiversité, direction Langonnette en Centre-Bretagne, où Roy Morvan, communauté, a mené ces dernières années des travaux de reméandrage de cours d'eau. C'est un sujet de Morgane Large, de Radio Crèze Braise, votre radio associative à Rostronin.
Je suis Séverine Chanoni, je suis chargée de mission environnement, ressources en eau et biodiversité à Roy-Morvan Communauté. Alors, plus généralement, en fait, d'un point de vue hydraulique, on est sur le bassin versant de l'Ailée. L'Ailée, en fait, pour resituer, prend ses sources dans les Côtes d'Armor, du côté de Mélionnec, traverse le département du Morbihan, avant de rejoindre l'Isole au niveau de Quimperlé pour former la Laïta et se rejeter au niveau du Pouldu, donc au niveau de Guidel-Quimperlé. Et le Langonnette, effectivement, est un des affluents du bassin versant de l'Ailée. Et si je vous ai emmené là, c'est parce qu'effectivement, c'est un cours d'eau, comme vous pouvez le voir. On pourrait presque plutôt appeler ça un fossé, en fait. Quelque chose de surélargi, en surprofondeur, plutôt envasé, on voit bien, avec peu de végétation aquatique. Et c'est ce qui nous a amené, évidemment, à imaginer un nouveau cours d'eau, évidemment, ici, dans un objectif très précis, c'est de pouvoir améliorer la résilience du cours d'eau, notamment par rapport au changement climatique qu'on peut s'apercevoir, même ici, sur nos territoires. Ici, on peut imaginer qu'on était sur des grandes plaines humides, avec des zones préférentielles d'écoulement, probablement, de cours d'eau. Et ici, on peut imaginer que ça a été retracé par des vocations agricoles, pour se nourrir, tout simplement. Mais ça date de probablement très très longtemps, on n'arrive même pas à revoir ça sur les photos aériennes des cartes état-major, on ne trouve pas l'emplacement des cours d'eau.
C'était pour assécher cette plaine, pour pouvoir la rendre cultivable parce qu'elle était trop humide.
Ouais, c'est ça.
Du drainage.
C'est du drainage.
Sur combien de longueur?
Sur à peu près la moitié de son lit, à peu près sur 7 km, que ça a été retracé en droit. Ouais. C'est au vu de la situation et puis du manque de vie du cours d'eau qu'on voit quand on regarde le cours d'eau. Qu'on s'est dit qu'on devait faire quelque chose. Et ce qu'on a proposé de faire, c'est effectivement des travaux dits de reméandrage. L'idée, c'est de garder l'eau le plus longtemps possible sur notre territoire pour éviter les inondations en aval. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'en remettant le cours d'eau là où il était avant, on va aussi à nouveau réalimenter les zones humides qui sont autour. Et du coup, ça va nous permettre, en période d'étiage, comme on est là actuellement, de garder l'eau aussi en période d'étiage et permettre la vie biologique au sein de nos secteurs, même en été, quoi.
Vous avez utilisé, Séverine Chanoni, le terme de reméandrage. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Ça vient de méandre? C'est quoi un méandre?
Un méandre, c'est à l'inverse de ce qui pourrait être rectiligne, c'est-à-dire qu'on va dessiner des formes dans le cours d'eau, des sinuosités dans le cours d'eau.
C'est des virages.
C'est des virages, oui, c'est ça. En remettant le cours d'eau exactement là où il était, il y a un régime naturel qui se reprend assez vite. En fait, il a une résilience hyper rapide si on le remet bien dans son endroit. Donc l'exercice le plus difficile, en fait, c'est le préalable, en fait, c'est avant les travaux, c'est de retrouver l'ancien cours d'eau. Et ça, c'est toute l'expertise terrain, alors cartographique quand on en a, là on n'en avait pas en l'occurrence, mais c'est toute l'expertise terrain, donc ça veut dire sondage au sol, quoi. L'idée, c'est vraiment de sonder, de retrouver les matériaux au fond du lit.
C'est les sédiments?
C'est les sédiments, les gravions qu'on peut entendre. Il suffit juste de mettre un bâton dans la terre et puis d'écouter le fond du lit et on le retrouve. Donc je l'ai fait comme ça, mètre par mètre, retrouver le fond du lit, ouais.
C'est même pas du carottage, quoi.
Non.
C'est à l'oreille, c'est très radiophonique, ça. On va pouvoir creuser.
Si vous voulez.
Génial.
Ah oui, c'est hyper intéressant. C'est assez pédagogique, en plus, pour le coup, parce que je l'ai fait l'exercice avec certaines personnes où je leur demandais effectivement d'écouter où est-ce que pouvait être l'ancien lit. Puis il suffisait de planter, on l'a trouvé, l'ancien lit. Et effectivement, du coup, quand l'appel arrive, on l'a fait gratter jusqu'à l'ancien lit, pas plus. Pas moi non plus, évidemment, et de manière à ce que le lit se remette. C'est ce que vous voyez là, en face de vous, en fait. C'est le cours d'eau qu'on a retrouvé quand on a creusé. Et contrairement à là, effectivement, on est en surprofondeur et il y a tellement de vase qu'on voit même plus le fond du lit, quoi.
«
Alors, Séverine, elle est armée d'une perche en bambou pour voir où était l'ancien lit. Donc, c'était, ça consistait en quoi pour vous de vous sonder, quoi.
Alors là, si j'avais sondé ici, mettons, j'aurais pu aller jusqu'à 2 mètres, 2m50 sans jamais rien trouver, en fait.
D'accord.
En sondant ici, je suis descendue comme ça, je me suis enfoncée, puis effectivement... Et rien qu'avec le son, je savais que le cours d'eau, il était là, en fait.
L'aspect que vous souhaitez avoir, donc c'est bien sûr ces virages-là, donc ça va ralentir la rivière, parce qu'au final, quand on a un fossé, ça fait un peu comme un tuyau de canalisation, quoi.
C'est ça. Alors, l'objectif, effectivement, c'est de ralentir, comme vous dites, hein, d'abaisser la pente, mais pas que. Vous voyez aussi qu'on a resserré au niveau du lit, donc on a un cours d'eau qui faisait 3-4 mètres de largeur, peut-être même plus à certains endroits, on l'a abaissé à 1-2 mètres de largeur. Donc l'idée, c'est évidemment de resserrer pour permettre à nouveau dynamique de l'écoulement avec une oxygénation qui se fait là, alors qu'elle ne se fait pas de l'autre côté.
Vous avez mis par endroit des bouchons, parce que alors, ça veut dire que le vieux lit, on l'a bouché, et puis on a dessiné à la pelleteuse, à la pelle, le nouveau lit, quoi. Ça devait être un massacre au départ, non ? Ça fait un peu peur quand on s'attaque à ça ?
Non. Oui, non, en fait. Ce qu'on fait, c'est le terrassement, il se fait toujours à sec. C'est-à-dire que le cours d'eau, on le redessine, tant le cours d'eau n'est pas, l'eau ne circule pas encore dedans. Donc on le fait complètement à sec. Donc on va le dessiner, on va l'habiller de matériaux, on va récupérer les matériaux de l'ancien lit qu'on va venir mettre dans ce qui va devenir le nouveau lit. Donc on le réhabille à l'intérieur, comme dans le milieu naturel. Donc on a fait des banquettes, des îlots, etc. Comme ce serait dans le milieu naturel. Et c'est seulement quand on a fini de dessiner le cours d'eau, qu'on l'a habillé, qu'on peut à ce moment-là connecter avec l'ancien lit, quoi, l'ancien lit. Et c'est seulement quand on a reconnecté qu'on vient mettre le bouchon pour empêcher l'eau de repartir dans son ancien lit.
Ça doit être émouvant, non ?
Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'adore, c'est un moment que j'adore. Et notamment, je trouve que ce qui est le plus émouvant, c'est quand on retrouve l'ancien cours d'eau. Quand on gratte et qu'on le retrouve, en fait. Qu'on le ressort
de son oubli.
De son oubli. Je trouve ça merveilleux. Moi, à chaque fois, c'est un moment magique pour moi.
Donc, Jean-Charles Loé, maire de Logmalo, commune du 56. C'est donc vice-président Remorvan Communauté sur les problématiques de l'eau. Petit cycle de l'eau, grand cycle de l'eau et biodiversité.
Bien. Dans les bassins versants, il y a les SAG ou les SDAG. Ce sont les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Ce sont des instances qui ne sont pas que environnementales. C'est-à-dire que siègent de manière collégiale tous les gens qui sont utilisateurs de l'eau. Et on doit trouver des consensus entre tous ces gens-là, tout en menant des opérations, en pilotant des opérations de maintien de la qualité de l'eau.
Il y a la qualité de l'eau, il y a la quantité d'eau. Tout à fait. Et donc, dans ces instances, il y a les associations représentatives, les pêcheurs, environnementales, etc. Il y a les professionnels également qui ont besoin de l'eau et aussi les collectivités.
Alors, est-ce que la question du reméandrage d'un cours d'eau, enfin là, on l'a vu avec Séverine Chanoni, ce sont sur des budgets, je trouve, très modestes, parce que j'avais été il y a quelques années sur le reméandrage d'un cours d'eau en sortie du bourg de Langonnette qui avait coûté beaucoup plus cher que cela. Est-ce que ça fait consensus au sein des clés et au sein des sages, ces projets de reméandrage et ces travaux de reméandrage ? Jean-Charles Loé.
En fait, ce ne sont pas les clés et les sages qui définissent spécifiquement ces travaux. C'est en fonction des nécessités et des opportunités. Et c'est plus l'intercommunalité qui pilote ce type de projet. Et par le passé, on était relativement bien aidé avec l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau collecte un pourcentage de l'eau qui est tirée au robinet et est censée le redistribuer pour justement des opérations de qualité et de quantité d'eau. Et bon, depuis quelques années, le budget de l'Agence de l'eau a été mis un peu sur d'autres projets que de le ramener à aider les collectivités sur la qualité de l'eau. Et donc, on a vu les subventions baisser sur les projets d'assainissement, sur des projets tels que le reméandrage, par exemple. Donc c'est l'élu qui vous parle et c'est là aussi des éléments politiques qui sont des choix qui sont faits ailleurs, à Paris par exemple ou autre, en mettant des budgets sur l'agence de l'eau par exemple. Il y a des budgets qui ont été mis pour les JO, il y a des budgets qui ont été mis pour faire 50% de réduction du permis de chasse par exemple. Ça c'est de l'argent qui vient de l'agence de l'eau, qui paraît vu de l'extérieur anachronique, mais sur le terrain ça se sent, c'est de l'argent qui revient plus sur les petites collectivités notamment.
Le fait que les coûts soient modestes, c'est dû à quoi ? Plus modestes qu'ils n'ont été à une époque, c'est parce que justement il y a moins d'argent de l'agence de l'eau et on cherche des solutions
On fait moins de linéaires, voilà. Tout simplement.
Jean-Charles Loé, vous avez un regard global, vous, sur toute la communauté de communes. Cette rivière, la rivière de Langonnette, là, elle a été quand même très artificialisée. C'est pas le cas des autres rivières sur votre commune. Il y a plein de cours d'eau quand même qui ont gardé leur lit. Je pense au Scorff. Il y en a d'autres. La Sarre.
Ah, le Scorff, oui. Le Scorff a gardé son lit. La Sarre a gardé son lit, mais c'est souvent des affluents. On en a un en plein cœur de bourg de Logmalo. Donc c'est l'affluent d'un affluent du Scorff. Donc le Chaplin qui est un affluent du Scorff, qui notamment a des soucis de nitrate reconnus, à un affluent qui passe dans le bourg. Et à la faveur de futurs travaux, eh ben on va recréer du reméandrage en plein bourg de Logmalo, justement, pour recréer ce qu'on appelle une trame verte et bleue, mais digne de ce nom, quoi, qui retrouve son lit d'origine, parce que là, ça a été rectifié pour passer au droit sur une rue, enfin, etc. Enfin, mais voilà, c'était le bon sens d'il y a 50 ans, d'il y a 80 ans, mais aujourd'hui, on sait qu'il faut le retravailler, et puis voilà. Et le fameux Chapelin, également, il va être remis dans son lit, parce qu'en plein cœur de bourg, il a été aussi rectifié, donc on va faire en sorte de le remettre dans son lit d'origine.
Et ça peut répondre au problème des nitrates ?
Oui, parce que ben, c'est pareil, on parlait des crues tout à l'heure, mais c'est pareil, plus il y a de méandres, plus l'eau va être ralentie, le lit de la rivière va faire plus son effet également, la végétation va aussi, tout ça, ça filtre en fait. Et puis au final, en rallongeant le circuit plus la biodiversité qui va avec, ça filtre et ça diminue aussi l'impact et ça écarte le cours d'eau de terres agricoles qui, elles aussi, peuvent apporter des nitrates, pas que, mais aussi. Et donc, du coup, ça permet aussi d'écarter le cours d'eau de ces risques-là, de ces apports-là. Et donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait du résultat.
Voilà pour ce reportage sur la restauration, ou plutôt le reméandrage d'un cours d'eau à Langonnette, dans le centre-Bretagne. Un sujet signé Morgane Large de Radio Kreisbreise à Rostronin. Alors, pour aller plus loin sur cette thématique, nous sommes en liaison avec, via les studios de SILAB à Rennes, avec Michaël Lebihan, spécialiste de cette question à la direction Bretagne de l'Office français de la biodiversité. Michaël Lebihan, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, comment réagissez-vous à ce reportage qui a été tourné donc sur ce cours d'eau à Langonnette, en Centre-Bretagne ? Est-ce que c'est une action pour vous assez emblématique de ce que l'on appelle le reméandrage des cours d'eau ?
Et effectivement, le reméandrage des cours d'eau constitue une opération très ambitieuse de restauration de la morphologie des rivières. Donc c'est un cas qui est vraiment exemplaire et emblématique au vu du linéaire qui a été restauré, qui est vraiment conséquent. Souvent, les projets se limitent à quelques centaines de mètres restaurés. Donc là, quand on dépasse des linéaires de restauration d'un ou deux kilomètres, ça devient vraiment emblématique.
Alors, on sent dans ce reportage aussi la forte implication dans cette action de la collectivité territoriale locale, Rouen-Morvan Communauté. Est-ce que les communautés de communes en Bretagne sont les principaux acteurs pour justement enclencher ou faire aboutir ce type de projet ?
Les groupements de communes et également quand elles s'organisent en syndicats de rivières et où il y a les techniciens rivières qui s'impliquent directement pour la mise en place de ces projets, c'est bien la majorité des projets qui se font grâce à ces structures sur le territoire de la région Bretagne.
Alors j'imagine que vous, à l'Office français de la biodiversité, vous avez suivi de près ces chantiers. Comment vous impliquez et comment vous accompagnez ces acteurs sur justement ces restaurations de cours d'eau en Bretagne ?
On a différents niveaux d'implication. On réalise déjà régulièrement des journées d'information technique à destination des techniciens rivières pour faire le point sur l'état des connaissances sur les différentes techniques qui permettent de restaurer des rivières. Et on intervient au niveau de la direction régionale et des services départementaux de l'OFB dans un certain nombre d'instances, des comités techniques, des comités de pilotage et également des visites terrain pour arriver à aboutir à des projets ambitieux et pertinents.
Alors j'imagine que justement sur ces visites terrain, vous avez suivi vous-même de près ces différentes actions. Sur le terrain, comment vous comportez, comment vous accompagnez concrètement justement ces travaux de restauration ?
L'idée pour nous, ça va être réellement de formuler des recommandations techniques adaptées aux spécificités des cours d'eau bretons et aussi par rapport aux techniques qui sont mises en œuvre. Donc c'est un peu comme un garagiste qui va recommander de prendre tel pneu en hiver ou de passer ses rapports à la telle vitesse. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'arriver à un fonctionnement optimal pour ces cours d'eau bretons.
Donc vous suivez vraiment de près les choses. On parle tout à l'heure d'un mot, le reméandrage. Quelle serait la définition exacte de cette expression, de ce mot qu'on n'utilise pas forcément beaucoup dans la vie quotidienne, le reméandrage ?
Le reméandrage va consister à recréer des méandres à une rivière qui en était naturellement pourvue, mais dont l'action humaine les a enlevés en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de redonner des méandres, des boucles ou des virages à un cours d'eau qui en avait naturellement.
Alors peut-être que pour que nos auditeurs comprennent bien les choses, il faut commencer peut-être par le commencement, de savoir comment fonctionne une rivière et pourquoi cette dite rivière ou cours d'eau aurait besoin de méandres.
En fait, une rivière, c'est un écosystème qui s'installe au fond des vallées. Donc, quand l'écoulement est suffisamment puissant pour produire de l'érosion et générer un lit avec des bordures distinctes, va se créer un lit mineur de cours d'eau. Et le lit mineur va s'adapter à un ensemble de caractéristiques des vallées, les pentes, les largeurs de vallées, la géologie, la couverture végétale, et va adapter sa sinuosité, la forme du lit en termes de largeur de profondeur, les cailloux qu'on trouve à l'intérieur, le bois au sein de la rivière et la ripisylve, qui est la bande boisée qui borde le cours d'eau. Donc c'est comme ça qu'un cours d'eau va développer sa physionomie, ce qu'on appelle son hydromorphologie, et à partir de là va découler tous les services qu'on va avoir pour la collectivité et toutes les fonctionnalités des rivières.
Oui, parce que le fait qu'une rivière ait des méandres, ça c'est plutôt l'état naturel des cours d'eau. En fait, si on ne modifie pas ces cours d'eau, ils ont a priori automatiquement des méandres, c'est-à-dire des virages. À quoi servent ces virages pour la biodiversité ? Est-ce que c'est important qu'on retrouve ces méandres dans l'état d'un cours d'eau ?
Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque rivière va développer son style de sinuosité qui lui est propre. Plus une rivière est pentue, moins la rivière aura de méandres. Et plus on arrive dans des zones de plaine, plus la rivière aura des forts méandres. Et ce qui va être intéressant pour la biodiversité, c'est que les méandres d'un cours d'eau ont la capacité de diversifier les écoulements et les formes de la rivière. Donc par moment, la rivière va ralentir quand on arrive dans une zone de méandre, et juste après, elle accélère. Et en fait, cette accélération et ces ralentissements vont permettre à des espèces qui aiment les eaux courantes et d'autres qui aiment les eaux lentes de s'implanter. Et de la même manière, avec ces changements de vitesse, on va avoir des zones où les sédiments fins vont se déposer, et à l'inverse, des zones où c'est les sédiments grossiers qui vont se déposer. Et la nature est bien faite parce qu'on a des espèces qui affectionnent les sédiments fins et d'autres qui affectionnent les sédiments grossiers.
Alors, on l'a compris, l'action de faire un reméandrage de rivière, c'est le fait de redonner, finalement, de redonner l'état naturel à une rivière. Qu'est-ce qui explique qu'une rivière ou un cours d'eau n'a plus forcément son état naturel ? Quelles peuvent être les interventions extérieures qui sont réalisées, qui font qu'on retrouve peut-être parfois des cours d'eau en ligne droite ?
C'est systématiquement la main de l'homme qui a conduit à linéariser les cours d'eau, donc à les mettre en ligne droite. Donc ce type d'intervention ont commencé dès l'Antiquité, mais plutôt c'était localisé au niveau des centres urbains, des zones monastiques et compagnie, parce qu'à l'époque les travaux se faisaient à la pelle à main. Donc imaginez les travaux pharaoniques que ça pouvait être de remettre un cours d'eau en ligne droite. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale et du développement massif de la mécanisation, ce phénomène de linéarisation des cours d'eau a été vraiment accéléré et amplifié et stimulé par les politiques gros membrement et les politiques de drainage qui ont été forts en France métropolitaine.
Est-ce que le fait qu'on ait finalement linéarisé des cours d'eau peut expliquer certains phénomènes accrus de débordement des rivières ?
Effectivement, quand on met un cours d'eau en ligne droite et quand on l'approfondit, on va empêcher à la rivière qu'elle déborde à l'endroit donné où on fait le projet. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on reporte la problématique directement en aval. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle de la France métropolitaine, que ce soit les villes, les villages ou les tout petits hameaux ont été souvent localisés au niveau des confluences. Donc en linéralisant les cours d'eau sur les zones amont et notamment en tête de bassin versant ou dans des zones plus naturelles, on augmente les pics de crue dans les zones sensibles pour la sécurité des biens et des personnes. C'est pour ça que ça a vraiment des répercussions fortes sur l'hydrologie et sur les conséquences sur les inondations en aval.
Pour autant, est-ce qu'il peut être quand même normal qu'un cours d'eau puisse déborder ?
Normalement, tout cours d'eau qui fonctionne naturellement devrait déborder sur la base de la crue journalière de fréquence annuelle ou biennale. Et il déborde où ? C'est dans son second lit qu'on appelle le lit majeur. Donc, ce qui peut être problématique dans certains départements, par exemple comme l'Ille-et-Vilaine, où 90% des cours d'eau ont été passés à la pelle mécanique et débordent beaucoup moins, les gens ont tendance à croire que c'est un dysfonctionnement de voir un cours d'eau déborder. Alors que non, quand un cours d'eau déborde dans un lit majeur naturel, c'est pas une problématique. Le souci, c'est plutôt quand le cours d'eau n'a plus assez d'endroits pour déborder et que les débordements se concentrent en ville, où il y a des enjeux directement sur des maternités, des écoles ou des habitations de particuliers.
Alors donc, si on comprend bien, sur un cours d'eau, il y a des méandres, mais vous parliez aussi de cailloux au fond des rivières. Pourquoi c'est important aussi d'avoir des cailloux au fond des cours d'eau ?
En fait, il faut voir que les rivières vont façonner les paysages à l'échelle des temps géologiques. Donc historiquement, en Bretagne, nos petits monts d'arrêt qui font moins de 400 mètres de haut sont maintenant bien tassés. Avant, c'était des montagnes beaucoup plus hautes. Et sous l'action de l'érosion hydrique, les précipitations et les cours d'eau vont vraiment réussir à entailler les paysages. Et en faisant ce travail d'érosion, les rivières vont concasser en fait, les matériaux grossiers en matériaux plus fins. Et c'est pour ça qu'on va retrouver au fond des rivières des pierres, des cailloux, des blocs, des sables grossiers, des sables fins. Et plus on est à proximité des zones de source, plus les sédiments sont grossiers. Et plus on arrive au niveau des zones estuariennes ou des zones de plage, plus le travail de concassage va être vraiment de très bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on va arriver sur des sables fins et voire des vases. Et ce qui fait qu'en fait, cette répartition de la granulométrie de l'amont en aval d'un cours d'eau va permettre à des organismes vivants qui affectionnent ces différents types de granulométrie de s'implanter. Et c'est pour ça que les hydromorphologues parlent de la banque de cailloux pour désigner la granulométrie qu'on trouve au fond des rivières et qui dorment dans les lits majeurs des cours d'eau.
Donc tout se tient finalement, c'est réellement un équilibre. Et ce qu'il faut peut-être dire à nos auditeurs, c'est qu'il n'est pas forcément à faire de prélever ces cailloux, puisqu'ils ont vraiment un rôle au fond des rivières.
Effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une rivière donnée a pu mettre, dans certains cas, des dizaines de milliers d'années à constituer 20 à 30 cm de cailloux. Donc si on retire ces cailloux, c'est pas sûr que cette même rivière ait la capacité de remettre à l'échelle des temps humains, voire des temps longs, cette banque de cailloux, sachant qu'elle est indispensable à la vie, mais également à la qualité de l'eau qu'on a sur les bassins versants.
Oui, quantité et qualité de l'eau vont ensemble forcément. Si on rentre un petit peu dans la technique, qu'est-ce que ça implique de refaire le lit naturel d'un cours d'eau, d'une rivière ? Quelle est la nature de tels travaux ? Comment vous procédez ?
Il va déjà y avoir une phase de diagnostic pour arriver à voir le niveau de dégradation du cours d'eau et est-ce que son niveau d'altération nécessite une restauration. Si le niveau de dégradation est extrême ou fort, il y a une opération de restauration qui est engagée. Donc là, il va y avoir une réflexion sur les techniques et le dimensionnement des techniques à mettre en œuvre pour restaurer la rivière. Une fois que ça va être acté, il y a une phase administrative pour recueillir l'accord des propriétaires, les différents financements, le montage du projet, l'encadrement réglementaire auprès des directions départementales des territoires et de la mer de Bretagne. Et après, va s'opérer la phase travaux. Donc là, ça va réellement être une phase de terrassement qui va être destinée à reconstituer un lit avec une morphologie proche des conditions naturelles.
Est-ce que parfois, cela, vous parliez peut-être de négociations avec les propriétaires des lieux, est-ce que cela peut engendrer des conflits d'usage parfois ? Est-ce qu'il y a des contraintes justement à la réalisation de tels travaux pour remettre un lit naturel, un cours d'eau ?
Une des plus grosses difficultés, c'est certainement de recueillir l'acceptation du propriétaire riverain, parce que ces travaux se font uniquement si les propriétaires sont d'accord. Et c'est vrai que Souvent, les habitants sont convaincus des problématiques à l'échelle du bassin versant, que ce soit en termes d'inondation, de qualité d'eau, de raréfaction du saumon, de problématiques d'accès à l'eau potable, de sécheresse. Mais ils peuvent être certains satisfaits par l'état de leur parcellaire. Donc, ils vont moins comprendre le fait qu'on intervienne sur leur parcelle pour restaurer un bien qui va être commun à l'échelle d'un bassin versant.
On entend aussi parfois dans ce type de projet un argument qui dit ben voilà, vous allez remplacer finalement en faisant ces travaux une biodiversité qui est installée depuis de longues dates par une autre biodiversité. Alors certes pour retrouver un lit naturel sur un cours d'eau, mais quand même ça peut perturber grandement peut-être une biodiversité installée. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cela?
Ce qu'il faut voir, c'est que les écosystèmes cours d'eau font partie des écosystèmes qui sont les plus dégradés au monde, comme on le voyait précédemment avec l'exemple de l'île Évienne où 90% des cours d'eau ont été passés à la pelle mécanique. Les cours d'eau actuellement ont une biodiversité très appauvrie, donc c'est des espèces qui sont très tolérantes, très généralistes, qui supportent les grosses perturbations, donc c'est vraiment des marqueurs d'altération forte de la main de l'homme. Donc l'idée quand on parle de restauration de la biodiversité, c'est de retrouver les espèces qui étaient naturellement présentes à un endroit donné du bassin versant. Et c'est retrouver des cours d'eau en tête de bassin, retrouver des zones humides littorales, retrouver des zones de landes, des zones de tourbières, des zones de forêt. En fait, c'est cette mosaïque d'habitats différents qui sont façonnés par des activités humaines respectueuses de l'environnement. C'est ça qui va permettre de trouver la biodiversité qu'on retrouve encore actuellement dans de nombreux territoires.
Mais par contre, ça peut prendre un certain temps avant de retrouver justement l'état naturel. Il faut aussi que la nature elle-même ait le temps de se réadapter, j'imagine.
En fait, ce qu'on peut observer, c'est que quand on fait des opérations de restauration dans des territoires qui sont encore relativement préservés, le fait de reconstruire un lit proche des conditions naturelles va permettre d'offrir des habitats accessibles à une population qui est encore présente, à des populations. Donc ce qui fait que s'il y a encore des écosystèmes en bon état en amont, en aval ou sur les affluents latéraux, il y aura rapidement des phénomènes de recolonisation biologique, donc ça peut se faire très vite, dans quelques semaines à quelques mois, on peut retrouver les peuplements historiques qu'on trouvait sur certains cours d'eau. Par contre, effectivement, si on est sur des territoires qui sont extrêmement dégradés, où l'intégralité des bassins versants est soumise à des pressions multiples, que ce soit de type travaux hydrauliques, des prélèvements forts pour différents usages ou des pollutions diffuses et ponctuelles, là ça peut être beaucoup plus long.
Est-ce qu'une autre contrainte, en dehors de celle qu'on vient d'évoquer, ne serait pas aussi des contraintes financières? Parce que j'imagine que de tels travaux, ça coûte quelque chose.
Il faut savoir qu'il y a un accompagnement relativement fort des collectivités et de l'Agence de l'eau pour mener à bien ces projets. Après, il y a une priorisation sur les masses d'eau en mauvais état écologique ou qui n'ont pas encore atteint le bon état écologique au sens de la DCE en termes de priorisation des financements. Donc, ce qui fait que les financements peuvent être différents selon les territoires où on se situe.
En dehors de l'exemple qu'on a entendu dans ce reportage tourné à Langonnette en Centre-Bretagne, quelles seraient pour vous d'autres actions emblématiques qu'on a pu connaître de reméandrage de cours d'eau en Bretagne ?
En fait, il y a énormément d'opérations de reméandrage qui se passent en Bretagne actuellement, mais il y en a beaucoup qui se passent sur des très petits cours d'eau, ce qu'on appelle les cours d'eau en tête de bassin versant. C'est des cours d'eau qui font généralement moins de 2 mètres de large. Et ces cours d'eau-là, ils représentent environ 70 à 80% de la longueur totale du réseau hydrographique. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de nom, donc souvent ça passe moins par voie de presse ou c'est des travaux qui se font de manière moins médiatique, mais il y en a énormément, hein. Je peux citer même à proximité de là où on fait l'enregistrement, le ruisseau de la Blanchetée, le ruisseau de la Mécanique, c'est vraiment des tout petits cours d'eau qui ont pu être reméandrés. Et dans le Finistère, on a la Berre-Île-d'Hutte aussi qui a été reméandrée, donc il y a vraiment beaucoup de projets qui se sont réalisés, qui sont en cours de réalisation actuellement sur la région Bretagne.
Très bien, Michael Lebihan, merci. Je rappelle que vous travaillez sur tous ces enjeux sur les milieux aquatiques, de biodiversité et de cycle de l'eau à la direction Bretagne de l'Office français de la biodiversité. Vous pouvez également donc retrouver beaucoup d'informations sur le site de l'OFB, ofb.gouv.fr. Merci également à Timothée Douvizy de SILAB, votre radio associative universitaire à Rennes, pour l'enregistrement de cet entretien en duplex. À bientôt pour un nouvel épisode de Biodiversité en air. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.